Bonjour. Moi, je voudrais revenir sur les enquêtes de victimisation. Ça va avec mon accent et tout. En fait, moi, je travaille sur les discours promulgués par les nouveaux experts, dont le plus incontournable, c'est justement le président de l'OND, Alain Bauer. Alors, je constate que depuis une petite quinzaine d'années, cette thématique des enquêtes de victimisation refait de plus en plus surface sur leurs travaux. Et dans un esprit de montrer, de faire la preuve que la situation sur le terrain, finalement, c'est beaucoup plus aggravé que ce qui feront ressortir les statistiques policières. Alors, ils invitent à faire de plus en plus des enquêtes de victimisation, mais dans cet esprit-là, où, au moins c'est ma thèse, en fait, les sentiments que j'ai. Et alors, je voudrais vous demander si vous partagez ces points de vue.
Là, ça va être difficile pour moi de répondre puisque je suis pas un expert des enquêtes des victimations et donc je suis pas, je peux pas vous donner les chiffres, quoi, par exemple. C'est tout simple. Non, mais pour avoir une idée des choses. Alors, en tout cas, ce que je peux vous dire, moi, c'est que il y a quand même bien l'idée que ces enquêtes de victimation, elles sont faites pour contrôler effectivement les données produites par l'État 4001, quoi. Voilà, qui en gros, c'est un État où les gens explique, enfin déclare tous les problèmes qu'ils ont pu rencontrer. Donc voilà ce que je peux dire. Et donc de fait, effectivement, ça peut être dans l'idée que il y a alors soit le problème il est sous déclaré via l'administration, puisque en fait l'administration, ce qu'elle a, c'est que déjà elle a ceux qui viennent se plaindre, quoi. Tous ceux qui viennent pas se plaindre, de fait, on les mesure pas. Donc avec les enquêtes de victimisation, on peut collecter ça en plus. Voilà. Alors après, moi, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, alors Bauer, bon, effectivement, c'est un personnage. Il a beaucoup œuvré pour la création de cet observatoire, donc il est effectivement le président. Et il œuvre aussi beaucoup pour que cette enquête, elle soit annuelle. C'est une enquête annuelle. Et en fait, quand on regarde beaucoup de délits, en fait, concerne une minorité de la population. Et le problème de faire une enquête annuelle, c'est de se dire on va suivre des évolutions. Alors en fait, on va avoir un outil pour suivre soi-disant pour suivre des évolutions, c'est un peu l'idée de faire des enquêtes annuelles, et qui est sur des phénomènes tellement, tellement rares que d'une certaine façon, l'enquête statistique, elle n'est pas capable de dire s'il y a eu des évolutions ou pas, sauf avoir sur des longues périodes. Donc on pourrait se poser la question de savoir pourquoi on fait une enquête tous les ans, alors que là, c'est quand même plutôt des phénomènes assez structurel, où on pourrait se dire je fais une enquête tous les 5 ans. Et ne pas faire une enquête tous les 5 ans, mais la faire tous les ans, ça veut dire qu'on consacre beaucoup de moyens, peut-être 5 fois trop, on pourrait se dire ça, 5 fois trop de moyens à cette question, alors que, comme je vous l'ai dit, on a déjà des problèmes de budget, on pourrait peut-être les utiliser à faire d'autres enquêtes qui sont peut-être plus importantes. Par exemple, sur les conditions de travail. Un exemple parmi d'autres, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre question, mais effectivement, je pense que l'idée, c'est bien ça, c'est à la fois de contrôler et donc de fait on aura plus, puisqu'on va repérer tous ceux qui ne disent pas, qui vont pas à la police, mais qui par contre sont capables de le dire à un enquêteur lors d'une enquête statistique.
Oui. Est-ce qu'il y a, c'est un peu décalé par rapport au contrôle sécuritaire, mais est-ce qu'il y a des transformations de l'appareil statistique, pression sur les agents, transformation d'indicateurs, rapprochement de services, etc., qu'on peut directement imputer à la crise économique et sociale ? Est-ce que la crise économique, ça accélère des tendances sur, par exemple, le fait d'évincer un certain nombre de demandeurs d'emploi, ou est-ce que c'est pas vraiment une date césure ou une date marquante ?
Là, je pense qu'il est en fait un peu tôt pour répondre à cette question. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a deux questions. Il y a la première question, c'est la question de la pression. Je dirais que, bien que la situation soit difficile, pour l'instant, il reste quand même un certain nombre de... Enfin, il y a trop de barrières, on va dire, entre le politique quand même et le statisticien pour qu'il produise ce qu'on lui demande de produire, encore pour l'instant. Voilà. Il y a encore suffisamment d'écart. Par contre, ce qu'il peut y avoir, c'est effectivement des prises de temps, c'est-à-dire par exemple dans les services statistiques ministériels, de plus en plus de temps est consacré à la réponse au cabinet. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un peu de réponse au cabinet, voilà, les cabinets ministériels, voilà, qui ont besoin de chiffres pour conduire leur politique publique. Et puis, il y avait quand même du temps pour faire d'autres choses. Bon, il se trouve que dans un certain nombre de ministères, aujourd'hui, il y a une avalanche de demandes des cabinets, et donc qui, d'une certaine façon, nuit aux autres travaux, quoi. Voilà, donc ça peut être la chose qui se passe et qui nuit d'autant plus que comme on est de moins en moins, forcément c'est plus délicat. Alors après, pour cette histoire de crise économique, par exemple sur le taux de chômage, là c'est vraiment pas répondre. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas c'est en discussion, puisque là par exemple il y a eu pas mal ces derniers temps de débats sur tous ces chômeurs qui allaient arriver en fin de droit et qui vont un peu disparaître de la statistique et donc qui pourraient faire artificiellement baisser le nombre de demandeurs d'emploi, sachant que, comme je vous l'ai dit, entre le nombre de demandeurs d'emploi et le taux de chômage, c'est pas du tout la même chose qu'on mesure, quoi. Donc, de fait, c'est pas pour ça que le taux de chômage va baisser. Mais seulement, le gouvernement va peut-être plus communiquer sur ce chiffre-là que sur le taux de chômage.
Merci pour votre présentation. Moi, je voulais savoir si vous pouviez revenir un petit peu, peut-être expliquer un peu en détail, enfin, le débat complexe qu'il y a eu sur les statistiques ethniques, parce que il me semble qu'on a là, enfin, des prises de position assez fortes, à la fois politiques, mais aussi de la part de chercheurs, très différentes, très diverses, et qui sont au cœur peut-être des débats et des enjeux politiques que vous avez soulevés. Et puis, j'ai peut-être une autre question qui renvoie aussi dans ce processus un peu de fragilisation de la statistique publique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un élément qui serait lié, en quelque sorte, à des luttes internes, au champ de la statistique et des statisticiens et notamment et puis des chercheurs, notamment avec la montée en puissance des économètres, qui renverrait aussi à des spécificités françaises et donc du coup à l'importance aujourd'hui d'avoir des statistiques européennes de comparaison, voire mondiales de comparaison. Et voilà.
Alors, pour la première question sur les statistiques ethniques, effectivement, c'est un débat qui est un peu récurrent, quoi, mais il y a eu une première discussion, on va dire, je crois que c'était peut-être entre 2005 et puis 2007, hein, pour résumer, c'était au moment de la mise en place d'une enquête qui s'appelle TEO, donc c'est Trajectoire et Origine, qui avait vocation justement à... En fait, c'était une reprise d'une enquête qui avait été menée en 92, qui s'appelait MGIS, je crois, enfin Migration, Génération. Et donc l'idée, c'était de suivre de voir les différences entre la population immigrée et puis une population témoin. Donc ça, c'était la première enquête, là. Et puis Théo, c'était un peu un prolongement, c'était de regarder un petit peu quelles sont les trajectoires plutôt des immigrés. Et puis il y avait aussi pas mal de choses sur les gens qui sont dans les départements d'outre-mer. Voilà. Et dans cette enquête... il y avait, on va dire, une double tutelle qui était l'INED et l'INSEE. Alors là, je vais hyper schématiser, hein, parce que ce n'est pas du tout comme ça dans la réalité, hein, c'est le problème. Et ce qu'on va dire, c'est que, en tout cas, ceux de l'INED qui étaient dans ce qu'on appellerait le comité de pilotage de l'enquête, étaient plutôt pour les statistiques ethniques. Et puis ceux qui étaient l'INSEE, était plutôt contre. Voilà. Donc ça, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et il y a eu pas mal de... Et en particulier, les organisations syndicales de l'INSEE étaient archi contre. Voilà. Et enfin, surtout la CGT, mais il se trouve que c'est la CGT qui mène l'ensemble de la barque là-bas, puisque les autres ne font rien. Et dans cette friction, il y a eu un premier temps où il y a eu discussion de ces choses-là au CNIS. C'est-à-dire Et alors là... le directeur général a été, enfin en tout cas, assez malin. Il a dit bon, moi aujourd'hui, il faut vraiment, je sais pas ce qu'il faut faire là. Donc le mieux, c'est qu'il y ait une grosse discussion qui se fasse là. Et puis quand il y aura un consensus social sur cette question, on pourra ou non intégrer ce type de questions sur la couleur de peau. Parce qu'en fait, c'était ça l'idée. Hein, c'était il fallait que la personne se déclare à quoi il s'identifiait. Et donc, qu'est-ce qui, alors ça pouvait être sa religion, ça pouvait être sa couleur de peau, ça pouvait être son pays, des choses comme ça. Mais avec une question assez, pas du tout une question ouverte, plutôt une question avec des items, quoi. Et donc, c'était la crainte des gens qui sont contre, c'était la réification d'un référentiel ethno-racial. Voilà. Et donc, avec toute la panoplie derrière pour résumer, en gros, ouais, on va revenir au nazisme, machin, etc. Donc ça, c'est les arguments très très forts. Je caricature, hein, il y en a qui sont beaucoup plus subtils. Et puis de l'autre côté, on peut pas ne pas prendre en compte cette question parce que il y a des discriminations. On ne sait pas les mesurer aujourd'hui. Il faut les mesurer, voilà. Et donc chaque camp avait des organisations qui étaient plus ou moins pour. Donc, par exemple, je crois que la SOS Racisme était contre, mais le Grand était pour. Enfin voilà. Donc avec des associations qui deux fois se retrouvent sur d'autres sujets, mais là voilà, il y avait un partage. Et aujourd'hui, au moment de la création de la Comed, il y a eu des chercheurs, parce que la Comed elle était présidée par François Héran, je crois. François Héran, c'était à l'époque, il était encore directeur de l'INED. Lui, il était plutôt pour. Ce qui était assez marrant, c'est que quand il était plus jeune, il était contre. Mais bon, donc c'est des choses qui évoluent. Et de l'autre côté, il y a des gens de l'INED aussi qui se sont dit, oulala. On va créer nous aussi une commission, je crois que ça s'appelait la CARCED, et avec l'idée, alors eux, avec des gens de l'INED aussi, qui étaient contre. Voilà. Et donc il y a eu ces deux commissions qui sont réunies, et chacun a produit un rapport, dont je ne sais pas quelles seront les applications, in fine. Quoi. Mais même dans la COMET, je crois que finalement, il y a l'idée de ne pas faire de référentiel ethno-racial, en tout cas pas dans les fichiers administratifs, c'est une première chose. Et peut-être, pour des enquêtes ponctuelles sur les discriminations, on pourrait mettre des questions. Voilà, voilà où on en est, mais je ne sais pas s'il peut après y avoir un retour de bâton, ou dans un sens ou dans l'autre. Alors, la deuxième question, je ne me souviens plus. C'était quoi déjà ?
C'était un peu sur les luttes internes aussi.
Ah, alors...
Avec des méthodes...
Ouais, les méthodes statistiques. Alors, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que... Avant, il y avait une sorte de triptyque qui était planification, mesure des, on va dire, et puis mesure des inégalités, et qui allait avec une technique statistique qui était l'analyse des données. Voilà. Donc, même Bourdieu l'a utilisé, même s'il ne disait pas toujours du mal. Voilà, plus ou moins, on va dire. Et en gros, l'idée, c'était l'analyse des données, c'était l'avantage, c'était de pouvoir faire des représentations avec des beaux graphiques et où on voyait les corps sociaux qui se représentent, qui étaient à des endroits avec des activités. Enfin, voilà, c'était tout un truc. Et puis, aujourd'hui, on est plutôt dans un truc marché, incitation et puis indicateur, avec effectivement tout un développement des techniques économétriques, avec l'idée qu'aujourd'hui, que bon, l'économétrie, c'est l'objectif, c'est avoir les effets purs des variables, c'est-à-dire on va s'intéresser à une question, par exemple fumer du cannabis, voilà, paf, donc oui je fume, non je fume pas, donc ça c'est ma variable d'intérêt, et puis de l'autre côté de l'équation on va mettre tout ce qui pourrait jouer pour fumer, alors le sexe, la catégorie socio-professionnelle, le fait d'avoir des amis qui fument, enfin, tout un tas de trucs comme ça, et puis l'économétrie, qu'est-ce qu'elle est censée produire, c'est de dire, bah voilà, telle caractéristique, elle va avoir telle influence sur le fait de fumer ou pas. Donc effectivement, l'économétrie, ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, c'est plutôt vu comme une pratique de droite, parce qu'elle permet de centrer sur l'individu. Mais si j'ai bien compris ce que disait Malinvaux, c'est que dans les années 30, quand ça a été développé, c'était plutôt une technique de gauche. Donc les techniques, en fait, c'est plutôt l'utilisation que la technique en elle-même. Donc je ne suis pas sûr qu'il faut voir là-dedans, enfin, le développement de l'économétrie comme l'explication, on va dire, de choses. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'au sein de l'INSEE, les économètres ont remporté le match, on va dire, mais depuis longtemps. Les économètres et les économistes, d'ailleurs. Parce qu'en fait, l'INSEE, c'est études économiques. Hein. Là, on va dire, les études sociales, elles existent, il y en a de plus en plus, enfin, il y en a quand même beaucoup, mais elles sont pas, c'est pas ce qui est plus mise en valeur. Voilà.
Une dernière question.
Alors, je ne sais pas s'il y a le temps de répondre à ces différentes choses. J'avais deux, J'aurais aimé avoir votre avis sur deux choses différentes, mais il n'y aura peut-être pas le temps. La première, c'était sur d'autres types d'organismes que l'INSEE, quant à leur indépendance ou leur instrumentalisation, et puis la qualité des données, des analyses qu'ils produisent. Donc c'était le CEREC, qui fait notamment les enquêtes génération avec des déclinaisons dans les régions. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Et puis les observatoires, moi j'en connais peu, mais je connais à la fois un observatoire qui a l'air indépendant, comme l'Observatoire des inégalités, peut-être pas, je sais rien. Et j'ai découvert l'autre jour un observatoire qui est issu de la Chambre de commerce et d'industrie, là, le BIOP, qui fait des études. Par exemple, j'ai trouvé un truc sur l'évaluation scolaire au service de l'orientation ou pas. Donc j'ai aucune idée de ce que ça peut être en termes d'indépendance et de production de résultats. Et puis l'autre question, mais il n'y a peut-être pas le temps, c'était votre avis sur l'évolution des modes de recensement de la population, qui avant étaient exhaustifs et maintenant ne le sont plus, mais qui sont plus réguliers, enfin, dans le temps. Donc est-ce que ça produit à la fois comme dans les résultats et dans l'utilisation de ces résultats ?
Alors pour la première question, je vais pas mal botter en tout, je pense. En tout cas, ceux que vous avez évoqués, à part le BIOP que je ne connais pas, donc le CEREC et l'Observatoire des inégalités, c'est deux choses totalement différentes. Le CEREC, en fait, c'est comme un institut de recherche. Ils produisent des études plutôt de bon niveau. Et je pense que les résultats qui en sortent, c'est des bonnes études, mais c'est de la recherche, ce n'est pas de la statistique publique. Voilà. Alors après, il faut voir que justement, comme il y a tout un tas d'organismes au-delà de la statistique publique qui produisent des statistiques, il y a l'idée, dans les années qui viennent, de produire ce qu'on appelle un label statistique. C'est-à-dire qu'il y a des enquêtes, on leur mettra un tampon, ou label statistique. Sachant que les enquêtes du CEREC, elles passent devant le... Elles suivent toutes le chemin classique des grandes enquêtes. Elles vont devant le CNIS pour avoir un avis d'opportunité. Ensuite, elles passent devant le comité du label pour avoir voir s'il y a bien adéquation entre ce qui est recherché et puis les questions qui sont posées. Enfin voilà, elles passent devant tout un circuit, donc c'est quand même des enquêtes sérieuses. L'Observatoire des inégalités, ça n'a rien à voir. L'Observatoire des inégalités, c'est le joujou de Louis Morin. Donc, c'est pas du tout un observatoire qui produit des choses. Ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent des données produites par l'ensemble de la statistique publique et par d'autres administrations, et puis qu'ils en font des commentaires, voilà, qui sont des fois très très bien. Je n'en remets pas du tout en cause le principe. Hein, même en tout cas, quand je travaille sur les inégalités, j'y allais souvent parce que, comme ils font des trucs assez synthétiques, c'est intéressant. Et puis de temps en temps, il y a des tribunes qui valent le coup. Mais ça n'a rien à voir avec la production de statistiques, l'Observatoire des inégalités. Après, il y a d'autres observatoires. Bon, il y a l'OND dont je vous ai parlé, il y a l'Observatoire des US, voilà, des choses comme ça. Et donc, ils sont plus ou moins... On a multiplié, en fait, les observatoires. Bon, on peut se poser la question de savoir si c'est bien ou c'est pas bien, quoi. Mais, voilà, c'est un peu l'idée. Il y a une question, un observatoire. Bon, je ne sais pas si c'est toujours bien. Des fois, c'est bien, je pense que ça, c'est comme pour les SSM, on se rapproche de la question, mais ça peut aussi avoir une dispersion qui peut nuire au système, quoi. Pour les modes de recensement, alors là, je suis encore plus mal à l'aise pour répondre, surtout que c'est enregistré, que ça pourrait être utilisé contre moi. Ce que je peux dire, c'est que c'est clair, ça a complètement modifié la production des données du recensement. Alors, c'est-à-dire, il y a deux choses. C'est les avantages qu'on peut y voir, moi je vais faire un truc vraiment bateau, quoi. Les avantages qu'on peut y voir, c'est qu'effectivement, maintenant, on aura des données chaque année, quand même, à un niveau assez fin. Donc ça, c'est intéressant. Et puis à terme, on pourra peut-être aussi y associer des enquêtes. Donc là, ce serait hyper intéressant parce qu'on aurait des petites enquêtes, mais on aurait des enquêtes sur des gros... comme l'enquête, il y a question d'avoir une enquête famille et logement qui serait associée au recensement et donc d'avoir un gros échantillon, on pourrait faire des données très localisées, donc c'est intéressant. Et puis les données du recensement, elles sont extrêmement utilisées pour tout un tas, par tout un tas d'acteurs locaux, par exemple les agences d'urbanisme, elles regardent ça de très près et après elles peuvent les vendre, etc. Donc je pense que le côté fraîcheur des données, c'est quand même pas mal. Par contre, du côté défaut, c'est que c'est une organisation terrible. C'est-à-dire qu'il faut constamment, en fait, on est chaque année, c'est comme un petit recensement, quoi. Donc ça occupe un grand nombre de gens à l'INSEE, à la fois au niveau à la direction générale, donc c'est ce qui serait le cœur stratégique, et puis dans toutes les directions régionales, quoi. Voilà, donc ça prend beaucoup de temps. Et ça coûte, finalement pas moins cher. Parce qu'au début, l'idée, c'était peut-être que ça coûte moins cher. Et puis surtout de lisser. Parce qu'avant, en gros, on faisait un recensement, c'était 2 milliards. Ouais. Le recensement de 99, c'était, je crois, 2 milliards de francs. Je crois que c'était encore des francs à l'époque. 2 milliards. Donc pour vous donner une idée, quoi. Mais en fait, aujourd'hui, ça reste à peu près le même coût, quoi. Alors qu'on est. Mais l'avantage, c'est que c'est chaque année. Donc c'était. Le problème. Qu'est-ce qui a poussé un petit peu cette décision, c'était que l'INSEE se disait, si jamais on ne passe pas à ce nouveau mode de collecte, on peut craindre que l'espace entre deux recensements s'agrandisse. Parce que l'État, il n'aura pas envie de sortir 2 milliards à un moment pour faire un recensement. Quoi. Alors que si c'est lissé en continu et qu'en plus on produit plus de données, etc., ça peut être intéressant. Bon, sachant que dans le monde aujourd'hui, on est le seul pays qui fait ça, quoi. Et on ne sait pas si on veut tellement exporter la méthode, quoi, pour l'instant. Parce que ça a d'autres contraintes. En particulier, c'est sur toutes les questions des bases de sondage. Le recensement, c'est ce qui sert à faire l'ensemble des enquêtes. Introduire un aspect aléatoire dans le recensement, ça a des conséquences sur tout ce qui est après les enquêtes. Ça complexifie, en fait, toute la partie échantillonnage. C'est-à-dire, l'échantillonnage de l'enquête, c'est quand on va aller tirer des gens pour les enquêter. Cette partie-là, elle est énormément complexifiée par cette nouvelle méthode, sans qu'on en ait perçu les conséquences au départ. Quoi. Voilà. Donc on apprend à vivre avec le recensement au quotidien.
Merci. Donc on clôture cette session et cette journée et demie d'études, et on se retrouve à 14h pour un après-midi très dense, avec des films, des débats, des militants. Et donc, on pourra reprendre un peu l'ensemble de ces questions sur un mode plus citoyen, comme on dit. Et les intervenants colloques sont, comme hier, invités à manger. Et cet après-midi, ça doit être au Planétarium, hein, je pense.